Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtaha, partage son avis et sa réflexion. Dans un article qu'il a intitulé « Le Maroc et la Coupe du Monde 2030, enjeux et perspectives » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste initie son article ainsi.
Partagé entre 6 nations, incluant le Maroc, et 3 continents, la proposition de la Coupe du Monde 2030 suscite des réactions critiques, bien que certains points méritent d'être débattus. Après la CAN, le Mondial. Pour le Maroc, les succès s'accumulent comme le fruit mûr de leur labeur acharné. Comme mentionné précédemment, il est essentiel d'inclure les réussites sportives dans cette quête incessante d'excellence et de dévouement.
Madame Salma Labtaha ouvre la voie à sa réflexion en disant que
après ses performances exceptionnelles au Qatar, le Maroc a rejoint l'élite des nations ayant atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde. Il est désormais impossible d'ignorer sa candidature. En outre, en plus de ses atouts spécifiques, que nous ne détaillerons pas ici, l'alliance avec l'Espagne et le Portugal s'est avérée être une idée judicieuse, non seulement d'un point de vue marketing. L'approbation de la FIFA pour cette candidature à 3 pays repose sur la symbolique puissante de l'union entre le Nord et le Sud, mais surtout sur la cohérence qu'elle représente. Ces 3 nations partagent une synchronicité temporelle remarquable, presque aucun décalage horaire, une proximité géographique, des distances très courtes à parcourir, et une harmonie climatique. En comparaison, la Coupe du Monde 2026, prévue en Amérique, États-Unis, Canada, Mexique, malgré les apparences, ne démontre pas la même cohérence. Ces 3 pays représentent chacun un continent distinct, avec des décalages horaires importants et parfois des variations climatiques significatives. De plus, il y a d'immenses distances à parcourir. Pour les équipes nationales et les supporters, il sera plus simple et plus pratique de voyager du Maroc à l'Espagne et au Portugal que du Mexique au Canada et aux États-Unis. Il est important de rappeler ceci, car il y a actuellement des critiques concernant la décision prise pour le Mondial 2030. Mettons de côté les personnes jalouses habituelles, devinez qui ? Ainsi que les pessimistes, et concentrons-nous sur les autres pour écouter leurs arguments, pour ceux qui en ont. Ils évoquent le problème du décalage horaire. Cependant, cet argument ne s'applique pas au trio Maroc, Espagne, Portugal, mais plutôt aux 3 pays d'Amérique du Sud, Argentine, Uruguay, Paraguay. Cela dit, il est à noter que ces 3 nations d'Amérique du Sud ne sont prévues pour accueillir que 3 matchs au total. Bien que les rencontres précises ne soient pas encore déterminées, il est probable que la FIFA choisira des matchs opposant des équipes américaines pour atténuer les effets du décalage horaire.
Notre chroniqueur continue de la manière suivante.
La FIFA justifie la tenue de ces 3 matchs en Amérique du Sud en raison du centenaire de la Coupe du Monde en 2030. En effet, la toute première édition de la Coupe du Monde, en 1930, s'était déroulée en Uruguay. C'est pourquoi la décision a été prise d'accorder à ce pays, ainsi qu'à ses voisins, la possibilité d'accueillir un match du Mondial 2030 en commémoration de cet événement historique. Un autre argument soulevé est celui de la fragmentation de l'identité de la Coupe du Monde, étant donné que l'édition 2030 sera partagée entre 6 pays et 3 continents. Cet argument est valable, mais ouvre la voie à la discussion. En effet, en 2002, la Coupe du Monde s'était déjà déroulée entre 2 pays, Corée, Japon. De plus, en 2008, l'Euro avait été attribué conjointement à la Suisse et à l'Autriche. Il est également à noter que le prochain mondial, comme nous l'avons mentionné précédemment, se tiendra sur 3 vastes pays. Est-ce inévitable ? Autrement dit, les futures éditions de la Coupe du Monde seront-elles invariablement destinées à se dérouler dans plusieurs pays ? C'est une possibilité à considérer. À partir de 2026, le nombre d'équipes en compétition passera de 32 à 48. Avec 12 groupes de 4 équipes et un tour de match éliminatoire supplémentaire, 16e de finale, cela représente un total impressionnant de 104 matchs à jouer. C'est une augmentation significative. Les équipes qui parviendront jusqu'à la finale, tout comme le Maroc au Qatar, devront donc disputer un match supplémentaire, 8 au lieu de 7.
Notre journaliste enrichit son discours de la manière suivante.
La rallonge ne concerne pas seulement les matchs, mais aussi le nombre de supporters, la durée des séjours, la sollicitation des réseaux routiers, des structures d'accueil, des dispositifs de sécurité, etc. Un seul pays sera-t-il en mesure de porter tout ce poids ? Les critiques semblent donc être en retard, par rapport à une évolution majeure. Depuis l'arrivée de Gianni Infantino, la FIFA a clairement adopté la politique du plus de matchs. Cela affecte non seulement la Coupe du Monde, mais également d'autres compétitions pour les équipes nationales et les clubs, en Europe et ailleurs. Le projet d'Infantino a toujours été axé sur l'idée d'augmenter le nombre de matchs, de diversifier les compétitions, et d'adopter une approche inclusive visant à impliquer davantage de nations dans l'organisation.
L'auteur termine son article en ces termes.
En conclusion, les raisons de se plaindre auraient dû se manifester au moment de l'élection du dirigeant actuel, plutôt qu'aujourd'hui.
Rédigé par Salma Laptar. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.